What is this, Connor?
Easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Great easy.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dice? Papa fa che dice?
Bonjour à toutes et à tous les cinéphiles, bonjour et bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Au programme aujourd'hui, des films qui explorent nos liens aux autres, avec Cathy et Olivier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Sophie, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Et bonjour Sylvain qui fait le lien toujours.
Bien le bonjour.
On parle donc des films A Real Pain, L'Attachement, Bonjour l'Asile et Law and Order. Ben on commence tout de suite avec attention un film un peu bavard.
You're looking back at the horrors of your family history.
We completely cut ourselves off from anyone else's true pain.
Why are you doing this?
Oh man, you used to like feel everything.
Obviously, there are triggers along the way.
We're not at the right station.
And you didn't wake me up.
Oh, you're having such a good nap, dude.
Jesus,
you were like,
Christ, you're on a tour group with people.
I know, I just didn't have the heart to wake you up.
Has he always been like this?
I love him, and I hate him.
What the flying jeez.
And I want to be him.
You used to cry about everything.
Yeah, it was awful. Who wants to cry about everything?
We're in a Holocaust tour. If now is not the time to grieve, I don't want to tell you.
Je ne rends sans doute pas hommage réellement au film en disant que c'est un film bavard, mais c'est vrai qu'en voyant la bande-annonce, je me suis dit que c'était un peu à la Woody Allen. Ouais. Ça parle beaucoup. Et on est voilà sur cette histoire A Real Pain de Jesse Eisenberg. Tu l'as vu, Cathy?
Oui, c'est un film en fait qui raconte. Bon, alors déjà, c'est la deuxième réalisation de Jesse Eisenberg. Donc, en fait, moi, j'ai pas vu la première. Je crois pas qu'il soit sorti en salle en France, malgré le fait qu'il faisait l'ouverture de la Semaine de la Critique en 2022 au Festival de Cannes. Et ça s'appelait « When you finish saving the world », tout un programme, et qui parlait déjà de questions des origines, de l'identité, voilà, et de la famille. Donc je pense que ce sont des sujets qui importent particulièrement le réalisateur et acteur que l'on avait découvert, enfin en tout cas moi personnellement, j'imagine que vous aussi, dans The Social Network. Et donc là, effectivement, le film raconte l'épopée de deux cousins qui partent en Pologne, un petit peu sur les traces, et pour rendre hommage à leur grand-mère qui vient de décéder, et pour revenir un petit peu sur les traces de leur famille. Donc ils partent des États-Unis, bien sûr, pour aller en Europe et en Pologne en particulier. Et pour moi, c'est une sorte de...
Leur grand-mère qui est survivante des
oui, bien sûr, du génocide. Et donc, en fait, pour moi, c'est un petit peu un buddy movie. Il y a vraiment deux personnages très différents. Un qui est joué alors par Kieran Culkin, qui est donc le frère de Macaulay Culkin, qu'on avait découvert dans Maman, j'ai raté l'avion. Voilà.
D'ailleurs, j'en profite, oui. un petit pas de côté sur les années 80, début des années 90. Oui. Il y a aussi Jennifer Grey, dont on a parlé il y a très peu de temps, Dirty Dancing, qui est dans ce film.
Ouais.
Voilà, okay. Wow.
Et donc c'est David et Benji qui, comme je disais, partent en voyage en Pologne. Et donc le Kieran Culkin, je ne sais plus si c'est David ou Benji. Bon, bref. Et particulièrement, lui, très, très volubile, il parle énormément, donc vous l'avez remarqué dans la bande-annonce, il est un peu, pas sociopathe, mais pas loin. Enfin, donc c'est très amusant de voir ces deux personnages se s'aimer malgré tout énormément et en même temps se confronter parce que très différents de caractère. Il y en a un qui est très posé quand l'autre est, est beaucoup plus
excentrique.
Voilà. Donc on suit leur voyage. Alors ils font ce voyage avec des gens aussi un pèlerinage, hein, on va dire, avec d'autres personnes qui ont la même démarche qu'eux, mais qui sont assez vite en retrait. C'est-à-dire qu'on va les retrouver quand même de temps à autre avec les questionnements. Il y a une fameuse scène de repas où là, la parole se libère un petit peu dans tous les sens et il y a plein de questionnements et d'interrogations par rapport à la démarche de chacun et le vécu par rapport à ça. Voilà. Donc c'est une scène très intéressante. Mais c'est vrai que le film se concentre particulièrement sur la relation entre les deux cousins. Donc c'est un film qui a également une très belle photo. J'ai trouvé qui nous accompagne, espèce un truc un peu sépia, mais enfin bon, bref, plutôt posé comme ça, pas de couleurs flashy, reste très très sobre aussi, assez conventionnel dans la mise en scène, mais voilà, il a beaucoup écrit sur les personnages, je trouve. Il y a des dialogues qui sont très fort, à la fois très fort, et puis des fois des gestes très forts aussi, où à un moment il sait poser la parole des personnages pour physiquement, visuellement, s'attarder sur des gestes qui ont leur sens et qui ont beaucoup d'importance, et pas que les mots en fait. Et donc c'est s'amuser à prendre du recul quand même par rapport à ces personnages, parce que c'est vrai que... Le cousin qui est un peu excentrique et qui parle beaucoup énerve très vite. Mmh. Nous, en tant que spectateurs aussi, on a envie de lui mettre quelques baffes par moment, en lui disant « est-ce que tu vas te calmer ?» Parce que là, on n'en peut plus, quoi. Et donc, en fait, on suit l'autre cousin, on se dit « mais comment tu vas faire, gars ? Tu vas pas t'en sortir, quoi, c'est pas possible. » Et puis, petit à petit, le film nous amène sur autre chose, parce que cette énergie qu'il a, il y a une explication derrière tout ça. Mmh. Voilà. Mmh.
Mais je veux dire que quand j'ai regardé la première fois la bande-annonce, je ne suis pas allée au bout en me disant mais non, jamais la vie, je vais prendre autre chose pour passer dans Cinémascope. Et d'ailleurs, j'avais préparé un petit Nocturne numéro 2 de Chopin qui passe apparemment dedans. Oui, et je m'étais dit, voilà, on garde ce morceau, peut-être je vais simplement passer ce morceau et pas la volubilité.
Oui, il y a quelque chose autour de la Pologne, là je vous entends parler de Chopin, bien sûr, polono-français. J'ai été assez ému ce matin de voir que le réalisateur avait donné la nationalité polonaise.
Jesse Eisenberg ?
Oui, par le chef de l'exécutif, j'ai oublié son nom, polonais, là, lui a offert en visite aux États-Unis, lui a offert la nationalité polonaise, et ça a beaucoup, beaucoup touché le réalisateur, par rapport justement à ses antécédents familiaux. Ouais.
Donc voilà, un récit... Ah pardon.
Non, si, vas-y, écoute, tu peux parler.
Je vais parler doucement, alors. Non, je disais que c'était un récit existentiel très émouvant. Et effectivement, avec cette petite musique de fond, petite. Ça fait bien.
À aller voir. Et surtout aussi, j'imagine, la rencontre entre des juifs new-yorkais et des juifs polonais.
Oui.
Enfin, ça doit y avoir aussi toute une réflexion, tout un monde. Enfin, je ne sais pas si c'est traité, je n'ai pas vu le film.
Pas forcément trop.
A Real Pain, donc de Jesse Eisenberg, qui est à voir à Rosière en ce moment, et la semaine prochaine il sera au Vence. Merci Cathy. On continue avec une autre forme de lien et d'attachement.
Excuse-moi, j'ai perdu les os. Comme tu m'avais dit que pour une heure ou deux.
Bon, j'ai dit ça.
On fait la course ?
J'ai pas envie de faire la course, vas-y, toi.
Tu connais rien au petit garçon, t'as pas d'enfant.
Je vais me préparer.
Qu'est-ce que je fais, moi ?
Je sais pas, tu veux faire un dessin ? Ça veut dire quoi, ça ? Oui ou non ?
Ah bah oui, Oui ou non, l'attachement de Karine Tardieu, avec, on l'a entendu, Valeria Bruni-Tedeschi, il y a également Pio Marmaille, Vima Lampons, et j'ai pas d'ailleurs le nom du jeune comédien qui fait l'enfant.
Non, j'ai pas non plus.
L'attachement que tu es allé voir, Olivier.
Oui, c'est un film que nous sommes allés voir mercredi soir, et qui nous a énormément touchés. J'ai l'impression, en entendant autour de moi les échos, que nous ne sommes pas les seuls, à tel point qu'hier après-midi, dans un atelier philo que j'anime, j'ai pris comme exemple d'œuvre d'art réussie qui à la fois est une comment dirais-je, obéit à des nécessités intérieures chez le créateur, les interprètes et le spectateur, et en même temps est adapté extérieurement par sa forme, enfin les images, justement l'interprétation des acteurs est adaptée aussi à notre extériorité, à notre vie, voilà, parce que c'est une histoire, très belle histoire. On a entendu dans la bande-annonce le coup de sonnette fatidique, Pio Marmaille et Villamapons. Non, pas du tout. Pio Marmaille et son épouse vivent avec leur petit garçon dans un immeuble, et l'épouse va accoucher de la petite sœur. Et comme ils se sont un peu mal organisés, ils décident de franchir le palier et d'aller sonner chez la voisine en face, qui est Valérie Bruni-Tedeschi. Et pour lui confier le petit garçon le temps de l'accouchement. Malheureusement, le liquide amniotique se mêle au sang de la parturiente et elle décède. Donc je ne spoile rien parce que c'est le tout début du film. Une scène d'ailleurs bouleversante, vraiment, de Pio Marmaille avec son garçon. Et tout part de là. Et ce qui fait extérieurement de ce film un film exemplaire, c'est que déjà l'histoire, bien que très très singulière, est très très crédible. Moi j'ai un peu reproché à des films ces derniers temps, je pense au roman de Jim, bon, qui a été aimé, mais apprécié, mais je pense aussi à Quand vient l'automne, sont des films que j'ai trouvé un peu fabriqués, dont les histoires me paraissaient un peu artificielles, pour montrer ensuite des sentiments. Alors que là, bien que très singulière, l'histoire, on s'y attache. On y croit vraiment. On partage le sort et les sentiments de tous les personnages qui sont dans le film. Et en particulier, donc, je le disais, à cause de la qualité de l'interprétation et des dialogues. Les mots qui sont mis dans la bouche de l'enfant, par exemple, sont extraordinaires. Et alors, on a à la fois des choses extrêmement touchantes concernant l'attachement et l'amour, et en même temps, des choses souvent très drôles et un peu ironiques, voire sombres. Et donc, ce film, on voit tout de suite la richesse. Alors, je n'en dis pas plus quant à l'histoire, parce qu'effectivement, des éléments nouveaux apparaissent. Mais ce sont des éléments nouveaux qu'il faut absolument découvrir quand on est spectateur. Je pense que ce serait vraiment dommage d'être mis au courant avant de tous les attachements qui vont se faire et se défaire au cours du film. C'est très, très fort. Quand j'ai vu la bande-annonce, évidemment, chasser le prof de philo, il revient au galop. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai tout de suite pensé à un texte de Plotin, le philosophe grec hellénistique, qui commente Platon, philosophe grec de l'Antiquité, dans le traité 50, son traité 50 commence par une question: l'amour est-il un état d'âme, un démon ou un dieu? Et bon, que l'amour soit un état d'âme, tout le monde le sait, puisque nous pouvons nous en apercevoir nous-mêmes, en nous-mêmes, c'est-à-dire quand l'amour se forme, quand une volonté d'attachement à quelqu'un se forme, et que nous y faisons attention, nous le savons. Donc l'amour est un état de l'âme. Que l'amour soit un dieu, ça on nous l'a beaucoup dit. Le christianisme dit ça, par exemple, Dieu est amour. Voilà. Bon, donc on peut, à la limite, Bon, on n'y comprend rien, hein, bien sûr, on n'y comprend rien, mais enfin, on peut l'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire que l'amour est un démon ? Alors, c'est la traduction homophonique du grec « daimon ». Et le « daimon », c'est quoi ? C'est un démon, c'est un génie, c'est un ange, enfin, etc. Bref, en tout cas, c'est un intermédiaire entre les dieux et les hommes. Mmh. Pourquoi c'est un intermédiaire ? Parce qu'il est né de l'union de Poros, alors c'est Platon qui explique ça dans le banquet, il est né, l'amour, Eros, il est né de Poros, l'expédient, la richesse, les biens financiers, tout ça c'est Poros, et de Peña, la misère, la pauvreté, le dénuement, voilà. Et donc l'esprit d'amour qui circule comme ça entre nous, il circule dans une atmosphère à la fois d'éclat, de lumière, de richesse, de bonté, etc., mais toujours dans une atmosphère aussi de manque, de détresse, etc. Et c'est le passage de tous les personnages du film à travers des moments d'exaltation et des moments, au contraire, de dépression, pour aller vite, qui fait que ce film est une parfaite illustration de la nature démonique de l'amour, d'une certaine manière. Mmh. Et vraiment, j'ai trouvé que c'en était... Je me demande, franchement, je me demande si la réalisatrice connaît le texte dont je parle, ou certainement le banquet de Platon, c'est quand même très connu, ce moment où il parle de la naissance de l'amour, comme de l'union de Poros et Peña, je pense que c'est assez connu, et je pense qu'elle était... La réalisatrice, je pense, au courant de la chose, en tous les cas, c'en est une illustration parfaite. Je recommande d'aller... et ça, évidemment, ça donne à penser sur tous nos attachements, avec ce qu'ils peuvent avoir. Parce que quand on traduit Eros par amour, on fait un choix, c'est-à-dire on le tire vers le haut. Mais Eros, c'est aussi le désir. Donc l'amour, c'est beau... le désir, c'est plus âpre, hein, voilà. Donc, comme ce film est la parfaite illustration de tout ça, je pense qu'il est fort pour ça.
C'est plus ambivalent, je sais pas. Il faudra peut-être demander à Cathy d'inviter Karine Tardieu, la réalisatrice, lors d'une prochaine rencontre des cinémas d'Europe. Tu pourrais ainsi lui poser la question.
Tu connais un peu sa carrière à cette réalisatrice.
Elle fait du vent dans les mollets.
Du vent dans les mollets, ouais.
C'était un de ses premiers films.
D'accord. J'étais en train de chercher justement parlais.
Je veux pas te piéger, mais c'est parce que c'est une curiosité qui vient de naître par rapport à ce que vient de dire Sophie.
Je connais pas particulièrement, mais ouais.
Elle a fait des études de psychologie, en partie.
Ah oui, bon.
À voir, en tout cas, l'attachement à Ruyons et à Aubenas en ce moment, et puis il sera bientôt à Rosières. On continue avec un autre film. Alors, je ne sais pas si elle était touchée par la nature démonique de l'amour, mais Julie Davis a produit ceci.
Elisa ?
Oh, c'est mon coup de doigt,
oui. L'asile, c'est un film qui interroge nos choix de vie.
Là, on arrive au potager. On essaye de tout faire en permaculture. C'est compliqué, mais c'est passionnant.
Mais ça y est, quoi. Là, vous êtes prêts pour la fin du monde en famille, quoi. Ça parle aussi du couple moderne.
Je l'ai mis où, les bonnes ?
Elle est où, la boîte de pirates d'attaque ?
J'ai pas trouvé la moutarde.
Lisa !
C'est également une ode à l'amitié.
J'ai pas fait le choix de la petite famille merdeuse qui a rien d'autre à proposer, ça c'est sûr. Parce que toi, tu te racontes le Père Noël avec tes cabanes.
Va-t'en, sale stalinienne, grosse snob.
Garde-toi !
Il y sera même question d'un promoteur engagé.
Bah qu'est-ce que vous foutez là ?
Notre 5 étoiles s'inscrit dans un projet éco-conscient, 100% décarboné.
Non, on ne part pas.
Mais Bonjour l'asile, c'est avant tout un film qui parle d'un asile.
Grosse Mama, bonjour.
Bonjour Grosse Mama, rebonjour Cathy. Donc on arrive autour de cette table aussi, derrière la vitre, avec ces quelques phrases bien senties de Judith Davis, donc la réalisatrice privadoise. Bonjour l'asile qui avait fait l'ouverture des Rencontres des Cinémas d'Europe.
Ouais.
Cathy, mot de ce film qui est encore à l'affiche au Vence. Mais voilà, si ça vous intéresse, la dernière séance est pour bientôt.
Ouais, alors Bonjour l'asile, c'est le deuxième long métrage de Judy Davis qui avait réalisé Tout ce qui me reste de la Révolution. Et on avait déjà cette énergie, ces comédies engagées qui frappent juste. Et là, elle revient avec un film choral où il y a quand même beaucoup de personnages. Elle a mis en scène des couples, elle s'est mise en scène elle, et puis ce lieu, donc que d'ailleurs c'est elle, hein, c'est la voix de Judy Davis qu'on entend dans la bande-annonce, et elle présente très bien le film. Et donc il y a cet ancien hôpital psychiatrique qui est venu un lieu, une espèce de tiers-lieu, où il y a plein de gens qui assument leurs différences et leurs choix de vie, qui sont là. Et ce qui est vraiment intéressant dans le film, alors pour l'histoire, l'intrigue d'abord, elle suit Jeanne, qui est interprétée par Judy Davis, qui est une militante urbaine qui rend visite à son amie Elsa, qui est jouée par Claire Dumas. Et Elsa, elle est récemment installée à la campagne, elle a vraiment fait ce choix de quitter la ville et d'aller à la campagne pour... quelque part, avec son mari, ses enfants, se ressourcer, faire de la permaculture, donc un choix de vie, comme on dirait, voilà. Et là, elle se rend compte, en fait, tout de suite, on voit très, très rapidement quand même que cette Elisa, c'est un choix de vie, mais enfin, elle n'a pas l'air d'être super épanouie. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à gérer les enfants. Son mari, n'est pas capable de trouver la moutarde dans le frigo ou dans n'importe quel autre truc. Enfin, bon, bref, donc... finalement, son Jeanne va la confronter un peu face à la limite de ses choix de liberté, soi-disant de vie, et de vivre différemment, alors qu'elle est encore complètement sous une forme de patriarcat. Donc, ce qui est intéressant dans le film, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle pointe tout ce que la société peut représenter maintenant, la diversité de la société, donc des gens qui vivent en ville, qui assument leur côté capitaliste, consumérisme, tout ça, et les autres, qui soi-disant les assument autrement, font d'autres choix de vie, mais finalement, elle montre très bien que c'est pas aussi...
C'est pas blanc et noir.
Elle montre
contradictions.
Elle montre toutes ces contradictions-là, avec énormément d'humour, avec... une énergie incroyable, parce que ça la représente. Et d'ailleurs, quand elle est venue aux Rencontres des cinémas d'Europe, initialement, elle n'était pas censée venir. C'est Claire Dumas qui était présente, donc l'autre réalisatrice, actrice, pardon. Et en fait, comme elle n'a pas pu venir, Judy Davis a traversé la France pour nous retrouver vraiment pile poil à la fin de la séance. Et elle a mis la salle dans une dynamique et une énergie incroyable, en fait. Parce qu'elle le porte sur elle. Et le film, on le ressent complètement. Alors, ça pourrait paraître un peu fourre-tout, mais ça l'est pas tant que ça. Parce que la vie, ça peut être un vrai fourre-tout aussi. En fait, on parlait des attachements, c'est ça. La vie, c'est vite foutraque dès qu'on est en interaction avec des gens qui peuvent être très différents de nous. Et c'est comme ça.
Et est-ce que formellement, elle le porte aussi dans son film ? Ou pas tellement.
Oui, formellement aussi, oui, bien sûr. Elle a. Enfin, après, je sais pas ce que tu veux dire par ça.
Artistiquement, est-ce qu'elle arrive à s'emparer de formes un peu nouvelles, je sais pas,
ou
qu'elle arrive à mettre.
Formes nouvelles comme ça, comme tu veux dire, non, peut-être pas forcément. Pas forcément, mais ça n'enlève à rien la qualité du film. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle montre deux couples. Et elle met en parallèle... Ce que j'apprécie dans ce film, c'est qu'elle ne va pas faire un film à charge contre les hommes, tu vois, parce qu'elle montre un couple où effectivement, il y a cette Elsa qui vit avec un mec qui est sans doute super et qui est proche de la nature et qui fait de la permaculture et qui cultive son jardin et tout ça, mais qui n'est pas très efficace dans la maison. Mais en parallèle, elle montre un couple où c'est la femme qui qui est plutôt voilà, qui avec des injonctions vis-à-vis de son homme qui doit être bien habillé, qui doit entretenir son physique, qui doit, enfin, et là on voit que c'est un peu lui la victime, c'est pas, tu vois, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a pas voulu faire un truc avec une charge féministe, elle est là, mais c'est plus subtil, quoi.
Merci, un peu plus de subtilité. Exactement. Et de complexité, puisque comme tu l'as dit, la vie c'est toujours foutraque. Bonjour l'asile, donc de Louis Davis qui est en Corvance. Allez-y si ça vous intéresse. Dernière séance. Allez, on continue avec Law and Order.
I've done wrong, and I've seen God, and I have seen God, and I ask now, and I ask now, that you'd come into my life, that you'd come into my life, and set me free, and set me free.
Un film de l'homme sage Frederick Wiseman, Law and Order, qui fait partie de trois films, d'une trilogie, trois films, Il était une fois l'Amérique. C'est en 1969 donc, qu'est sorti ce film, en tout cas aux États-Unis. Alors j'aime bien parce que dans Allociné, on a toujours le nom des comédiens, et là, le nom des comédiens avec Richard Nixon. Donc, alors, Law and Order ressort puisqu'il est dans le cycle de patrimoine, Escale patrimoine.
Escale patrimoine.
Oui. Escale patrimoine. Donc, vous allez présenter avec la Maison de l'Image, Cathy, jeudi 13 à 18h30. Il sera aussi le lundi et le mardi suivant. Mais alors, est-ce que tu veux nous le présenter et ensuite Olivier qui a vu là le film nous en parler?
Je vais laisser Olivier le présenter. D'accord. Juste recontextualiser un petit peu Escale patrimoine. Puisque c'est une programmation que l'on porte Cinéma Le Navire et Maison de l'Image chaque année maintenant. Et en fait, on fait des choix de programmation. Là, cette année, nous sommes plutôt sur la thématique du film policier, donc ou polar. Et bon, là, l'idée avec ce film, c'était de faire un petit peu un pas de côté, voire aussi côté documentaire, avec un sujet sur des policiers aux États-Unis et avec ce réalisateur, évidemment, que il n'est plus question de présenter. Peut-être, en tout cas, là, l'intérêt, c'est que pour une fois, il n'a pas un film de 2h30, mais c'est plutôt ça. Court. Ça fait du bien aussi. Mais bon, voilà, en fait, c'était aussi d'aborder sur la thématique du film policier, ce qui se fait
en documentaire
par exemple.
Voilà. Oui, donc c'est Law and Order. Le réalisateur, donc, c'est Frederick Wiseman. Et effectivement, c'est un documentaire assez court, il fait 1h20. Et c'est bien, même si on a un petit sentiment de frustration, je vais dire pourquoi. Effectivement, il a sa place dans la programmation policière des escales patrimoine, parce que c'est, alors je sais pas, il paraît qu'il y a un mot, cop watching, c'est parce que on regarde c'est le regard sur la police, quoi. Mmh. Tu as dit la date, 69, pour le lieu, c'est Kansas City, Missouri, on est dans le Midwest, hein, dans le The Heartland, le cœur de l'Amérique du Nord, et on est surtout dans le quartier noir, un peu défavorisé quand même, de Kansas City, voilà, qui est une grande ville, hein. Et donc on suit les policiers dans leur patrouille et dans leurs interventions, et c'est là la frustration. Du début à la fin, on a une série d'interventions des policiers qui rattrapent un type qui a volé une voiture et qui s'en est servi un petit peu comme d'un stock-car. Ensuite, ils vont pêcher une prostituée. Ils arrivent sur un taxi qui a un problème de paiement avec... C'est plutôt la dame qui a pris le taxi qui a un problème de paiement avec le conducteur du taxi. À un moment donné, ils trouvent une petite petite fille qui est perdue. On ne sait pas où sont ses parents, c'est pas, elle a 3 ans, elle ne dit pas un mot. Et donc, un policier, un cop, quoi, il la prend en charge, l'amène au commissariat. Au commissariat, ils ont l'habitude, donc il y a un parc pour enfants, ils mettent un matelas au fond. Le policier, avant, il lui a acheté dans un distributeur du chocolat qu'il lui donne. Enfin, voilà.
C'est une succession, tu veux dire, de scènes.
Et il n'y a pas de propos.
Ah, ok.
Il n'y a pas à proprement parler de propos.
Et cette succession de scènes ne fait pas propos, justement, après ?
Alors, justement, moi, j'ai trouvé dans Sens Critique ou dans Criticat, là, des avis sur le film qui sont des avis, je trouvais, un petit peu bobos, avec des...
Qu'est-ce que ça veut dire, bobo ? Bobo, ouais, vas-y, petit peu, quoi.
Alors, par exemple... Sens Critique met l'accent sur le pouvoir discrétionnaire qui influence le comportement des policiers. Dans Criticat, on tente de légitimer un usage de la force disproportionné à l'égard d'une population maltraitée. Alors, je veux dire, je ne sais pas si on a vu le même documentaire, les gens qui écrivent ça et moi.
D'accord.
Parce que ce dont on a l'impression, et c'est assez intéressant, le documentaire se finit effectivement par un discours de campagne de Richard Nixon. Alors, on connaît Richard Nixon. C'est quand même une partie de ce que l'Amérique a de pire, quoi. Hein, je veux dire, la corruption, le Watergate, la guerre du Vietnam. Enfin bon, c'est moche, quoi. Bon. Et donc, effectivement, le documentaire, je crois, il joue bien son rôle de documentaire. Il nous met devant la réalité de la vie difficile à Kansas City à la fin des années 60, début des années 70.
Où on sort à peine de la ségrégation.
On sort à peine de la ségrégation. Moi, je trouve que le racisme des policiers n'est pas du tout évident.
Pas tant.
Non, pas du tout. Que la population maltraitée, elle est autant aidée que... largement même plus aidée que maltraitée.
Ce serait comme Bonjour l'asile, en fait. Un peu plus subtil.
Oui.
Il n'y a pas, les méchants cops blancs et les gentils.
Voilà, exactement. Je crois d'ailleurs qu'on a même on a dans un magasin de vêtements une intervention extrêmement professionnelle des policiers qui désarment deux mecs qui étaient visiblement là, pas pour faire leur commission, quoi. Je veux dire, donc, effectivement, moi j'ai trouvé un film à voir pour ça. Parce que c'est même pas la nuance du propos de Frédéric Wiseman, c'est que lui, il a porté sa caméra, et on sent, c'est la caméra qui est portée à différents endroits, qui suit les policiers depuis l'appel au commissariat avant de partir pour leur journée, c'est même pas partir en mission, quoi, partir pour leur journée, et ils discutent de leur paye, de leur... etc. C'est... Pour moi, ça a été un moment de contact avec l'Amérique telle qu'elle est. En plus, cette Amérique-là, je rappelle, donc Midwest, Heartland, voilà.
Mais il fait des choix quand même de montage et de sélection de...
Très peu. D'accord. Et c'est ce qui... C'est, oui, bien sûr qu'il a sélectionné des interventions, qu'il les a montées les unes derrière les autres, mais ce sentiment de légère frustration qu'on peut avoir quand on a vu 1h20 de documentaire, c'est qu'effectivement, c'est un peu, débrouillez-vous. Moi, j'ai pris ça, débrouillez-vous.
Après, il ne faut pas oublier qu'on est au début de la carrière de Frédéric Wiseman.
C'est pas plus mal.
Et parce que je crois qu'il commence à tourner autour de 66-7, donc là, on est en 69. Hein.
Ouais.
Et qu'il est dans cette volonté de montrer un peu l'Amérique telle qu'elle est, quoi.
Voilà.
Donc il a fait aussi sur l'hôpital, enfin sur... je pense que c'est
posé. Et de ce point de vue-là, c'est très...
Il y a un côté un peu expérimental aussi.
Oui, complètement.
Voilà, volontairement assumé.
Voilà, exactement. Donc voilà, je crois qu'on est parfaitement raccord pour donner l'impression que fait ce film, avec effectivement, alors là encore référence littéraire, une impression qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Ça, c'est clair, ça marche pas, quoi.
Merci. À voir. Désolée, je te presse un petit peu, mais j'aimerais bien simplement, puisque Cathy, tu es là, et j'imagine que tu vas partir, puisque dans 2 heures débute le festival Plan Large de l'USAS. Est-ce que tu veux donc Law and Order, ce sera jeudi 13 à 18h30 avec une présentation dans le cadre Escale Patrimoine. Et puis ce sera aussi à voir lundi 17 et mardi 18 à Aubenas au navire. Et pour la suite, bah là c'est tout de suite à partir de 15h, commence à l'USAS le festival Plan Large. Julien nous en a dit
oui,
plus qu'un mot.
Hein.
Est-ce qu'il y a juste quelque chose que tu veux ajouter ou est-ce que tu veux vraiment mettre en avant un film ou...
Oh non, pas forcément. L'idée, là, vraiment, c'était de mettre en avant un continent et une filmographie qui a du mal à arriver jusqu'à nous. Enfin, il y a quand même beaucoup de productions, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais qu'on ne voit pas forcément en France ou très peu. Donc là, je voulais juste insister sur les choix de la programmation et aussi dire qu'il y a deux courts-métrages qui seront avant deux films qui sont Le Vrai du Faux samedi soir et Disco Africa. Ce sont deux films qui sont issus du Congo-Brazzaville avec des réalisateurs, hein, en l'occurrence ces deux garçons, qui seront présentés et qui nous plongent aussi encore un peu plus concrètement sur ce qui se fait là-bas en termes de cinéma d'animation pour l'un et film court pour l'autre aussi, mais enfin bon bref, en fiction, qui sont un petit peu différents de ce qui peut arriver jusqu'à nous en France. Et donc ça nous permettra d'avoir un aperçu sur comment on fait du cinéma aussi là-bas avec peu d'économie. Voilà, et ce sera présenté par Altes Sensor qui est notre référent, on va dire, actuellement sur la partie Afrique et qui pourra nous parler plus longuement aussi d'économie du cinéma en Afrique.
Passionnant, ouais. Un continent qu'on méconnaît, en tout cas cinématographiquement.
Ouais, alors qu'il y a beaucoup de films qui sont, enfin voilà, qui sont visibles, hein, mais il faut s'y intéresser.
On ne méconnaît pas que cinématographiquement d'ailleurs.
Ouais. Non, bon. Voilà.
Donc il y a 10 films et plein d'animations, une chouette ambiance, comme nous l'a dit Oxane à ce micro il y a quelques jours. Vraiment aller donc à partir de tout à l'heure, et c'est jusque dimanche soir. Un mot aussi avant nous quitter pour dire que au vent ça chôme pas non plus. Il y a pas mal de propositions de films, allez voir. Il y a par exemple une journée spéciale à l'occasion de la journée internationale des luttes pour les droits des femmes samedi, avec notamment Les Filles du Nil et d'Alva qui repassent. Dimanche c'est le festival Terre et Racines qui va durer jusqu'au 29 mars, et là ce sera Shambhala, le royaume des cieux, un film sur des femmes type. Et le 12 mars, autre soirée, une soirée queer avec le planning familial et art dans le ciel autour du film Les Reines du Drame d'Alexis Langlois qui est sorti en novembre 2024. Voilà. Pour quelques propositions, ça y est, on y va. Bisous Sylvain, merci d'avoir attendu 47 pour terminer cette émission. Et merci beaucoup Cathy et Olivier.
Merci à vous.
Ciao.
Ciao, ciao.
Voilà.